Yannick Jadot, en sciences humaines et sociales, on connaît le changement de paradigme, on connaît le post-moderne, post-structuralisme, etc., etc. On connaît la longue durée et la courte durée. Et la transition, qu'est-ce que c'est que ce concept ? Pour un chercheur en sciences humaines et sociales, on a du mal à véritablement sentir la valeur heuristique de ce concept de transition qui est central dans votre discours et dans votre réflexion.
On est dans un monde où les grandes idéologies sont mortes. Tant pis pour les certitudes sur la fin de l'histoire, tant mieux d'une certaine façon sur la responsabilité individuelle et collective. Et que pour ma part, ça signifie que il n'y a plus de grandes idéologies, mais il y a ce que j'appelle des utopies concrètes. À la fois, c'est se fixer un horizon, c'est se fixer un objectif, sortir du risque climatique, sortir du risque nucléaire, les pesticides et leurs dangers sur la santé, comme le modèle agricole qu'il développe, la question des mobilités, la question des grandes migrations et des petites migrations. Et c'est d'aborder ces horizons, ces objectifs, ces utopies de manière extrêmement concrète, à partir aujourd'hui des innovations technologiques, des innovations techniques, des innovations sociales, des innovations financières, des innovations démocratiques qui existent déjà. Parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas forcément à inventer le monde de demain. Celui qu'on souhaite, en tout cas nous les écologistes, c'est que toutes les solutions, elles existent ou elles sont en germe dans la société. La question est comment, d'une situation souvent en marge des politiques publiques, elles arrivent au cœur des politiques publiques et comment, puisque les transformations à faire sont tellement profondes, tellement importantes, elles nécessitent l'adhésion de chacune et de chacun, et donc comment on construit les transitions avec tout le monde. Ces transitions, ce n'est pas simplement dire... Évidemment, tout le monde a envie d'un air respirable, d'une alimentation saine, d'un climat stabilisé. Mais tout le monde a peur des changements qu'il va falloir opérer pour arriver à ça. Et bien, le concept de transition, c'est vraiment, quand on veut aller de A à Z, et bien demain c'est B, après-demain c'est C, après-après-demain c'est D, et comment on organise avec chacune et chacun ces grandes transitions.
Est-ce à dire que d'un point de vue scientifique, la transition met fin à ce regard scientifique par surplomb sur une réalité, mais que le regard scientifique doit être dans le devenir du réel. Et dans ce cas-là, s'il est dans le devenir du réel, où trouve-t-il la distance pour analyser ce réel ?
Je crois que la science a beaucoup évolué en s'inscrivant beaucoup plus justement dans le réel. Moi, on a eu longtemps, peut-être du fait de ces grandes idéologies ou d'un héritage à la fois, j'allais presque dire, un peu élitiste, d'un mode de fonctionnement où l'État s'est mis en surplomb de la société parce que finalement, les acteurs de l'État considéraient qu'ils savaient mieux que la société, puisqu'ils étaient formés pour savoir à la place de la société, et qu'on a pu aussi avoir une science qui s'est mise en surplomb, à la fois parfois animée dans les sciences dures d'une logique assez techniciste, de considérer que la technique, les innovations, les inventions vont sauver. Voilà, c'est l'héritage du positivisme, hein, c'est de dire qu'il faut libérer. Le siècle des Lumières a été un grand siècle de libération, à la fois des croyances théologiques, et puis de se dire, au fond, en sortant des croyances théologiques grâce, y compris à la technique, on va libérer l'individu. Sauf que le problème, c'est que le progrès technique est devenu déploiement technologique. Le progrès est devenu croissance du PIB. Et donc, on a perdu, au fond, toute la dimension humaine et profondément sociétale du progrès. Et que je crois qu'aujourd'hui, comme on est en fin de cycle, il y a la fin d'un monde, mais tout le travail, à mon avis, de la science et de la politique, comme tous les acteurs de la société, c'est de ne pas considérer que la fin de ce monde est la fin du monde, mais qu'il est l'ouverture d'un nouveau monde qui articule beaucoup plus les enjeux de la science en interaction avec les besoins de la société et la politique aussi, en lien avec tous les acteurs de la société. Moi, je n'ai jamais considéré que la politique aujourd'hui, ça doit être de dire à la société ce qu'elle doit être ou ce qu'elle doit faire. Je pense qu'aujourd'hui, la politique doit accompagner ce qui va bien dans la société et contraindre ce qui va mal dans la société.
Ce qui est intéressant d'un point de vue de votre discours, et par exemple ce qui est illustré dans le livre que vous venez de signer avec Benoît Hamon, c'est que le concept de migration qu'on associait à l'écologie, au discours écologique, tout d'un coup vous en faites une extension. Vous parlez de quatre transitions, transition démocratique, transition écologique, transition pour l'Europe et une transition
autour du social. Oui.
Autour du social.
Du travail et de l'emploi, oui.
Dans ce cas-là, est-ce que moi qui travaille sur la migration, je pourrais aussi penser une transition migratoire? Est-ce que pour vous, vous avez quatre transitions sur lesquelles vous avez travaillé, est-ce que la transition migratoire pourrait être une cinquième avec les exigences qui sont les mêmes pour les quatre autres transitions, c'est-à-dire reconstruire un dispositif de pensée pour guider le politique?
Ça me paraît essentiel. Ça me paraît essentiel parce que aujourd'hui, la question de la migration, des migrations, est tellement associée à la vision qu'on a d'une société ouverte ou fermée qu'elle me paraît absolument centrale. Pour une bonne partie de l'opinion aujourd'hui, la société ouverte est une société pervertie par le mondialisme. Au sens où finalement, il y a une partie de la population qui est plutôt la caste dirigeante. Je reprends parfois à dessein le vocabulaire des populistes ou des nationalistes ou des souverainistes ou de l'extrême droite. Pour une partie de la population, la mondialisation aujourd'hui est une mondialisation dérégulée qui perturbe tous les repères ancrés depuis longtemps dans la société. Et cette caste-là est celle qui bénéficie à la fois des richesses et de cette mondialisation dérégulée, mais qu'elle vit aujourd'hui de l'exploitation des classes populaires au sud et finalement de l'abandon des classes populaires au nord, et que la contrepartie de sa capacité de voyage, je voyage pour mon travail, je voyage le week-end à Marrakech ou ailleurs, je voyage pour mes vacances parce que le monde est beau et que les cultures sont belles, ben, la contrepartie, ce sont les migrations, avec les images qui nous percutent tous les jours à la télé, des boat people, des bateaux qui s'échouent en Méditerranée, ou des personnes, femmes, enfants, hommes, devant des barbelés ou sur la place à Stalingrad. Et que donc, il me semble absolument nécessaire, pour ma part, de faire atterrir la société ouverte. La société ouverte ne peut pas être qu'une société qui se met dans une sorte de pensée simplifiée de la mondialisation. Elle doit, pour atterrir, au sens remettre les pieds sur terre, elle doit aussi se relocaliser. Et que la question des migrations, la question des identités, la question des diversités doivent aujourd'hui se penser à l'échelle aussi des territoires. Moi, j'ai toujours considéré que, par exemple, il faudrait que dans chaque école, dans chaque quartier, régulièrement, dans l'entreprise, il y ait des moments où les personnes se mettent ensemble et puis racontent leur histoire, racontent l'histoire de leur famille, racontent leur trajectoire. Qu'on se sente héritier d'Astérix et Obélix ou qu'on soit arrivé la veille dans des situations de survie de Syrie ou simplement parce que venant d'un pays africain, d'un pays latino, d'un autre pays de je ne sais pas où, on est juste tombé amoureux et qu'on a envie de vivre dans le pays de la personne dont on est tombé amoureux. Eh bien, qu'on raconte notre histoire, qu'on raconte comment on veut contribuer à la société, quel est son talent, sa compétence. Et je crois que là, ça donnerait beaucoup plus de force à l'échelle des territoires, à des sociétés ouvertes, qui du coup valorise les migrations plutôt que d'en faire des flux qui font peur.
Donc cette transition migratoire, si on admet le concept, amènerait à intégrer cette figure du migrant comme une figure, non pas celle de l'étranger indésirable, mais celui qui vient apporter et qui vient se mêler.
Toute l'histoire des migrations est une histoire d'enrichissement, parfois d'appauvrissement de ceux qui partent, parce qu'il y a beaucoup de migrations subies. Il y a des migrations volontaires, il y a des migrations de rue, mais y compris aujourd'hui, dans le contexte de dont on parle, les migrants qui arrivent sont des migrants qui ont tellement survécu que leur contribution à la société va être incroyablement positive. Qu'il y ait des responsables politiques qui prennent des réfugiés ou certains migrants économiques qui ont passé des mois dans des conditions abominables, que ce soit dans le Sahara, en Libye, au Maroc, à travailler pour rien, à être violentés, machin. Qu'on puisse dire qu'ils viennent simplement pour toucher la couverture maladie offerte, y compris à ceux qui n'ont pas de papier, c'est totalement fou. Et donc il faut qu'on ait... On est dans un monde étonnant où, finalement, une bonne partie de la classe politique continue à construire une circulation sans entrave, y compris sans entrave sociale et environnementale, des biens, des services et des investissements, à un tel niveau que ce modèle économique est deux fois plus gros que la planète. Il prend deux fois trop de ressources naturelles, il pollue deux fois trop. Et qu'en même temps, on est en train de dresser des murs, des barbelés, d'ériger des camps pour les personnes. C'est quand même l'inverse de la civilisation. C'est le contraire d'un projet civilisationnel. Et donc, il va falloir remettre à la fois la mondialisation à sa place, donc une mondialisation qui n'est pas plus grosse que la planète. Donc, il faut remplacer la mondialisation d'une certaine façon par la planète. Et il faut remplacer le terroir, j'allais dire carte postale sépia qu'utilise l'extrême droite, nostalgie régressive de la communauté blanche, patriarcale, sexiste, catholique, où l'immigré plie les chines, où l'homosexuel se cache, par des territoires de construction démocratique avec toute leur diversité.
Il y a actuellement un problème qui se pose d'un point de vue juridique et politique, c'est que, entre guillemets, le réfugié climatique, le migrant climatique, l'exilé climatique ou environnemental n'a pas de statut reconnu.
C'est vrai.
J'imagine qu'à un certain moment, on va se tourner vers la pensée écologique avec une question très simple. Est-ce qu'un réfugié climatique est un réfugié comme les autres, ou est-ce qu'il faut le traiter juridiquement, philosophiquement, socialement, de manière particulière? Est-ce que pour vous, la catégorie réfugié climatique est une catégorie qui doit se fondre dans la question des réfugiés, ou est-ce qu'il y a malgré tout une spécificité?
Il y a d'abord un contexte politique. Dans le contexte politique d'aujourd'hui, réouvrir le statut juridique des réfugiés, ce serait probablement réduire la protection des réfugiés. Donc on ne peut pas ne pas voir ce contexte politique. Je sais que moi, dans toutes les discussions, parce qu'évidemment, pour un écologiste, toute la question du réfugié environnemental, beaucoup lié au climat, mais potentiellement lié à l'épuisement des ressources, aux maladies chroniques, à la question nucléaire, à toutes les questions environnementales, ou à la surexploitation, ne serait-ce que des ressources halieutiques dans les océans ou des choses comme ça. Bon. Donc, il va y avoir un niveau... une ampleur du nombre de réfugiés environnementaux qui va être absolument considérable. Et en même temps, on voit bien que tout ce qui relève des réfugiés politiques, aujourd'hui, est fortement remis en cause dans tout l'ensemble des débats politiques. Donc je ne suis pas aujourd'hui pour réouvrir les conventions sur les réfugiés, parce qu'à mon avis, on sortirait de là avec une réduction de la protection des réfugiés. En revanche, effectivement, c'est ce qu'on porte. Et maintenant, ça commence à apparaître dans les textes officiels, y compris de la COP21, les textes sur le climat, comment on traite de la question des réfugiés. Il va falloir ouvrir, à mon avis, un statut particulier, à la fois parce que leur nombre va être absolument gigantesque et que l'effet sera extraordinairement difficile à assumer pour les pays du Sud, hein, parce que la question des migrations est d'abord une question Sud-Sud. Quand on va avoir des déplacements de centaines de millions de personnes liés à le fait que les terres ne sont plus cultivables, lié au fait que, ou alors elles sont inondées, lié au fait qu'il va manquer d'eau là, ou qu'il y en aura trop là, va conduire à des mouvements de population qui vont d'abord être la question des pays du Sud. Et donc ça ne peut pas être simplement le voisin du Nigeria, ça ne peut pas être le Tchad, comment il doit appliquer une convention internationale sur des réfugiés qui viennent de sa frontière sud parce que le lac Tchad est en train de disparaître et que Boko Haram profite aussi de la perte de dignité énorme de centaines de milliers de jeunes dans la région qui n'ont plus de travail, qui se sentent meurtris, y compris dans leur identité sociale et culturelle. Donc il va falloir que ce soit des conventions qui prennent en compte la responsabilité énorme du Nord dans le fait que ces réfugiés existent. Parce que c'est notre modèle de développement aujourd'hui qui pollue le plus. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement une question de statut, ça va être une question de qui assume, au fond, la prise en charge des réfugiés. Hein, vous voyez, il y a des conflits aujourd'hui entre l'Australie et un certain nombre d'îles qui vont disparaître parce que ces îles attaquent l'Australie sur le fait que l'Australie, ne faisant pas d'efforts dans la lutte contre le dérèglement climatique, doit assumer les îles qui vont disparaître et accepter ces populations. Donc vous voyez, c'est un enjeu qui n'est pas simplement un enjeu de droit, qui est aussi un enjeu de prise en charge internationale de la question des réfugiés.
Dernière question, promis. Dernière question, d'un point de vue anthropologique, la pensée écologique déploie un certain imaginaire, qui est l'imaginaire de la terre à cultiver, et donc de, je dirais pas du lopin de terre, mais de quelque chose de limité, de défini. Par rapport à ça, la figure de l'exilé, c'est celui qui n'a pas de terre, qui ne possède plus rien. Comment concilier ces deux figures-là ?
C'est toujours, on voit dans beaucoup de débats politiques, la question de plus en plus du rattachement à la terre, y compris à qui appartenait la terre dans l'histoire et comment récupérer la terre. C'est vrai que il y a ces dernières années une évolution très forte sur le lien à la terre. Après, il y a toujours eu les enjeux fonciers. Hein, on le sait, la question du Soudan est aussi la question du rapport à la terre. La question sociale au Brésil est aussi la question du rapport au foncier, du rapport à la terre, notamment avec le mouvement sans terre, hein, des sans terres. Donc il y a toujours, et puis on voit bien comment sur des terres qui vont devenir de plus en plus fatiguées, épuisées, la question des sédentaires, la question de l'agriculteur et la question du nomade et la question de l'élevage, qui sont des dimensions de notre imaginaire, y compris religieux, sont des enjeux extrêmement, extrêmement forts. Là aussi, je crois qu'il va falloir, c'est assez marrant parce qu'il y a eu il y a quelques années, un rapport mené un peu comme le GIEC sur la question du climat, sur la question de l'agriculture. Et ce rapport disait, pour répondre à l'enjeu de la sécurité alimentaire, pour répondre à l'enjeu de l'épuisement des sols, pour répondre à l'enjeu climatique et à l'enjeu démographique, l'agriculture, le modèle agricole qu'on doit promouvoir, c'est pas un modèle, c'est le modèle traditionnel, pas au sens d'une tradition de la nostalgie, il faut faire comme avant, mais au sens des savoirs traditionnels, des savoirs des populations, y compris pour empêcher la vague massive d'urbanisation qu'il y a dans les pays du Sud. Nous avons développé un modèle, y compris à l'international, qui vient percuter toutes les cultures vivrières, mais aussi parce que la sédentarisation des agriculteurs au Sud est un enjeu essentiel. Après, la question de l'exilé, j'étais totalement dans l'utopie, je reprendrais une phrase de Kateb Yassine qui disait « à chacun le pays de l'autre ». Mais ça, je reconnais que c'est une belle utopie. Et c'est vrai que quand je vois aujourd'hui comment l'imaginaire de la frontière est en train de reprendre une place démesurée dans le débat politique, mais c'est tellement simple. Vous dites, on est dans un monde qu'on ne comprend plus. Frontières. Les gens se disent, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus de terroristes. Il n'y a plus de dumping social. Il n'y a plus les banques. Ils mettent derrière l'imaginaire de la frontière quelque chose qui n'a jamais existé en réel, mais quelque chose qui leur disent on va respirer, on va remettre des frontières, donc on va respirer. Ce monde qu'on ne comprend plus, on va revenir au monde d'avant. C'est ce que j'appelle ces nostalgies régressives. Eh bien, évidemment, la question de la frontière, la question de l'exilé, la question du nomade, la question du réfugié, la question du migrant, elle a toujours contourné la frontière. Ces questions-là ont toujours contourné les frontières. Mais il va falloir montrer à quel point c'est une richesse, montrer à quel point... Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je suis désolé, je reviens à un truc que je disais, la société ouverte doit atterrir. Elle doit se relocaliser. Elle doit sortir de cette image un peu de la mondialisation heureuse d'Alain Minc, où il y a une classe qui en profite au détriment de tous les autres. Et quand c'est au détriment de tous les autres, quand la question des inégalités sociales, quand la question des inégalités sociales dans les territoires ou à l'échelle internationale n'est pas traitée, ça devient, le seul sujet devient le sujet des insécurités. Et quand on est dans le sujet des insécurités, on est toujours dans la construction des boucs émissaires. Et historiquement, dans toute l'histoire, l'exilé, le nomade, le migrant a toujours été le premier des boucs émissaires.